Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif d'heure pour finir, quand on se retrouve pas pris au piège dans une situation de où nos surmois se mettent à bouger trop fort là, par rapport au reste?
Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 17h30, mais il y a peut-être des personnes qui auront quelques contraintes et qui partiront peut-être vers 17h. Ce qui serait bien, c'est quand même que. Ah, pardon.
17h30.
17h30 qui est prévu.
D'accord, ok. Bon, ben ça c'est bon. On aura le temps de discuter dans ce cas-là. Vraiment.
Voilà, oui.
Ok. Donc, alors, je passe. Avec les zones humides, je vous ai donné un exemple français. Je l'ai développé un tout petit peu en détail, même si c'était rapide. Au fond, il existe un exemple de référence maintenant pour une situation sud. C'est le travail de Maya Leroy sur engagements environnementaux et dispositifs de gestion dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est dommage qu'elle n'ait pas devant elle le monstre pour. Merci. C'est évidemment c'est un travail extrêmement approfondi, tant sur l'étude du cas que sur la discussion théorique. Et c'est pas en 5 minutes qu'on va discuter le travail de Maya. Ce que je voulais simplement faire, c'est pointer quelques éléments qui montrent en quoi il remet en action le cadrage théorique de la SGE et les enjeux du champ de l'évaluation des politiques publiques. Au fond, le travail de Maya, il est fondé sur le triangle entre les engagements environnementaux internationaux, les politiques environnementales, c'est-à-dire l'ensemble des moyens d'action qui sont mis en œuvre pour essayer de tenir ces engagements, et puis les effets sur l'environnement de l'ensemble des politiques liées au développement. Autrement dit, il y a bien un référentiel normatif, il y a bien une gestion intentionnelle avec des politiques environnementales, et il y a bien une gestion effective avec tout l'ensemble des politiques qui ont un effet sur le fait que les promesses environnementales sont tenues ou ne sont pas tenues. Donc, le cas de savoir si ces engagements environnementaux sont tenus sur le Sénégal se prête bien à une analyse stratégique de la gestion environnementale. Maya précise bien dans sa thèse, ces engagements environnementaux, ils portent sur le maintien des fonctionnalités de l'hydrosystème, avec plusieurs conventions internationales qui précisent bien que les États s'engagent à ça. Ils portent sur la préservation des zones humides, ils portent sur la conservation de la diversité biologique et des espèces sauvages menacées, et ils portent sur la gestion avisée des écosystèmes. En anglais, c'est wise use, c'est le concept qui a été développé dans le cadre de la Convention de Ramsar pour définir précisément ce que c'est qu'une gestion durable écologiquement des zones humides. Donc il y a bien des engagements environnementaux. Au regard de ces engagements, dans le travail de Maya, il y a une analyse approfondie qui montre quels sont les processus dommageables, c'est-à-dire ceux qui conduisent à ne pas tenir les engagements quand ils ne sont pas tenus. Et on peut regarder quelle est la part de responsabilité dans ces processus dommageables de diverses politiques de développement, par exemple celle qui consiste à endiguer les bordures de cours d'eau, qui sont évidemment incompatibles avec les engagements de zones humides, ou les modes de gestion de barrages qui sont plus ou moins compatibles avec les engagements des politiques environnementales. Et puis, dans son travail, Maya analyse aussi en profondeur les éléments de gestion intentionnelle. On retrouve le même mouvement que dans l'évaluation zone humide. On met en évidence les impacts de l'ensemble des actions publiques. Et après, on regarde quelle est l'efficacité propre des actions publiques dédiées. Donc, le programme d'atténuation et de suivi des impacts de la mise en valeur du fleuve, en fait, c'est des impacts du barrage de Manantali. Et donc, je n'ai extrait qu'un seul des résultats. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du tableau. Ce que vous constatez, c'est que chaque ligne correspond à un critère qui correspond à un engagement de politique publique, maintenir la crue pour maintenir les fonctionnalités hydrauliques et hydroécologiques. Échanges latéraux et verticaux, ça fait partie du même critère. Zone humide, biodiversité, je ne reviens pas là-dessus. Et ensuite, on a un ensemble de critères qui permettent de dire si on est dans un cas de restauration, c'est-à-dire d'amélioration, de stabilité, de dégradation lente ou rapide. Et là, dans le cadre du programme d'atténuation des impacts, vous voyez les cases en rouge, ce sont celles qui décrivent le niveau de tenue ou les critères qui sont remplis. On s'aperçoit que du point de vue de la crue, on est dans une posture de dégradation lente. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui était prévu au départ, la crue n'a pas été complètement supprimée. Elle a été atténuée, donc les impacts ont été atténués, mais on est en processus de dégradation lente. Que du point de vue des échanges latéraux et verticaux, les actions publiques qui continuent à endiguer, à artificialiser les fonctionnements hydrologiques continuent à dégrader fortement par rapport aux engagements et aux critères de wise use des zones humides. Idem que, que l'ensemble de l'action publique ne permet pas de stabiliser la biodiversité et que, en ce qui concerne la gestion à viser, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce programme de développement, sa priorité n'est pas de favoriser les activités sociales, économiques et autres locales qui sont compatibles avec une gestion viable des fonctionnalités écologiques de l'hydrosystème. Donc, pour ce travail, met en évidence notamment un point tout à fait capital dans notre approche, mais qui est développé beaucoup plus dans le travail de Maya, c'est le fait qu'il est indispensable d'avoir un travail multiscalaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'action publique, elle ne se déroule jamais à un seul niveau. Il n'y a pas d'action publique locale. Il y a une action publique qui, depuis tous les niveaux d'intervention publique, porte son impact au plan local. Et dans beaucoup de situations de recherche sur les ressources, l'environnement, les territoires, on procède à une découpe du problème dans lequel on nous dit on va réfléchir à la négociation locale entre les acteurs. Mais sur une situation française, un maïsiculteur, c'est un acteur local, parce que c'est pas la filière maïs qui est en cause, c'est pas l'ensemble de ses financements, de ses cadrages, etc. Donc c'est pas possible d'évaluer les politiques sans être multiscalaire. Ce travail il permet bien d'évaluer l'écart entre les engagements qui ont été pris et les conséquences des actions, et il permet d'en expliquer les causes. Ça, c'est la dimension analyse des processus de Durand. On a une analyse très approfondie dans le travail de Maya sur les fonctionnements qui conduisent aux résultats qu'on observe. Donc, moi, je pense que ce travail, c'est vraiment un travail de référence maintenant pour l'évaluation des politiques d'environnement. Il est important de noter qu'il a donné lieu à des résistances intenses à l'analyse et à l'évaluation, et que la réflexion sur ces résistances, qu'on a juste commencé à faire en recoupant zone humide et Sénégal, est évidemment pour nous d'un très grand intérêt. Et ce que je pense, c'est que pour approfondir la question que je vous ai présentée, des chercheurs qui ont des intérêts sur des terrains sud, sur la gestion des écosystèmes, les politiques de développement agricole en particulier, je pense que le travail de Maya constitue une référence incontournable à discuter. Donc là, en quelques minutes, je voulais simplement pointer quelques éléments, montrer que ça s'inscrit dans cette perspective théorique et vous dire que si vous voulez aller plus loin sur ce point-là, il faut rentrer dans les contenus terrain, dans les discussions théoriques qui sont bien approfondies dans ce travail de Maya et que c'est à partir de ça que des discussions vraiment approfondies pourront aller plus loin. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, mais c'était important de dire qu'il y avait la possibilité d'aller loin dans la discussion d'un cadre référence sud sur des types de terrains et des types de questions qui peuvent vraiment parler, même si c'est parfois de manière un petit peu critique, à des chercheurs de l'IRD, du CIRAD ou du CEMAGREF. Alors maintenant, j'aborde ce qui est le point essentiel pour moi, en tout cas de l'intervention. Je ne vais pas être très long, mais je vais essayer d'être dense. Donc, l'enjeu maintenant, c'est d'aborder l'évaluation comme un enjeu analytique. Ce matin, Durand a parlé d'analyse des politiques publiques. Mais là, il a pris le mot analyse dans son sens, dans un sens relativement étroit. L'analyse, c'est la mise en évidence des effets causaux, etc., etc. Là, au contraire, je vais prendre l'analyse dans son sens le plus large, au sens où on utilise le concept quand on parle de psychanalyse, de socio-psychanalyse avec Mendel, d'analyse institutionnelle avec le Tavistock, les auteurs des années 70, Lourau, La Passade, analyse au sens aussi où le concept est utilisé par Deleuze et Guattari quand ils parlent de schizo-analyse, c'est-à-dire que, au fond, l'analyse, pris dans ce sens-là, qui est plus large, qui englobe l'autre mais qui le déborde énormément, c'est ce qui se passe lorsque quatre choses ne sont plus séparables. Ces quatre choses, c'est l'explication des choses, quand on dit le réel, la situation d'explicitation des choses, l'expression de soi dans la description ou l'analyse des choses, et le changement de soi, le projet de changement de soi et de la situation. C'est ça, une situation analytique. C'est une situation dans laquelle on est et où parler des choses n'est plus séparable de la situation d'explicitation des choses, n'est plus séparable de l'expression de soi et n'est plus séparable du projet de se changer et de changer la situation. Et donc, c'est un recadrage assez radical de la notion d'analyse. Dans le champ qui est le nôtre, c'est le projet central du cycle RES là, dont je parlais. Et donc, mon enjeu, c'est de montrer qu'il faut ouvrir, en complément des analyses classiques et de la théorie, et ça fait partie du modèle d'analyse stratégique, mais c'est encore peu développé dans ce modèle, cette dimension analytique. Et donc là, l'univers théorique et méthodologique, les ressources dont on va s'inspirer, elles vont aller chercher dans les différentes écoles que j'ai, ou dans les différents travaux que j'ai cités, et dans beaucoup d'autres. Au fond, si on veut accepter l'idée que les quatre choses ne sont plus séparables, alors il faut qu'on fasse revivre tout cet univers théorique et méthodologique, et qu'on le fasse reprendre son développement, qui d'une certaine manière est suspendu depuis 20 ans par des processus qu'on peut discuter. Et aujourd'hui, il est temps d'arrêter cette période de dormance, et de reprendre la réflexion analytique. Alors, on va y aller sur l'évaluation des politiques publiques. Alors, d'abord, il faut laisser derrière nous un arrière-plan encombrant, c'est ce que j'appelle le modèle tradit des relations entre recherche, politique et le monde. Ce modèle tradit, c'est celui que Latour appelle moderne. Les chercheurs accumulent des connaissances. La société civile et puis les problèmes techniques ont leur propre logique. Et puis les chercheurs accumulent des connaissances, des bases de données, etc. là-dessus. Et puis les politiques, ils décident ETCC, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, grâce au fait que les chercheurs ont accumulé des connaissances. Ça, c'est le modèle tradit. Alors les problèmes du modèle tradit, inutile de dire que c'est un modèle qui est en crise depuis maintenant 25 ans. Cette crise, elle se traduit par la recherche d'ouverture par rapport au modèle tradit. Donc, à partir des trois pôles de l'analyse du modèle tradit, l'ouverture que recherche l'action publique, c'est une ouverture par la concertation et par les dispositifs en direction du public et par les dispositifs d'expertise en direction du monde de la science. Dispositifs d'expertise, par exemple, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou le groupe international d'experts en matière de climat. Donc ça, ce sont des dispositifs d'ouverture qui sont développés face à la crise du politique en tant que séparé, auto-institué, etc. Pour l'analyste, c'est-à-dire le chercheur en l'occurrence, l'ouverture, elle s'est traduite d'abord par une réflexion sur la demande sociale. Je pense aux travaux de l'INRA des années 80, par exemple, en disant mais on n'est plus dans notre tour d'ivoire, il y a des demandes sociales, où elle est, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a vraiment des demandes, est-ce que c'est nous qui les induisons, et de manière plus récente, par le discours sur la post-normal science, c'est-à-dire la tentative d'élargir le fonctionnement et l'institution scientifique en y incorporant des éléments de la société civile et des porteurs du pouvoir politique. Et puis, le troisième pôle, société civile, c'est la montée des initiatives et du discours bottom-up, du choix de l'échelle locale et d'une approche presque basiste des terrains et des théories en matière d'environnement, de développement et de gestion des ressources et la participation du public. Mais il ne vous échappe évidemment pas, en regardant ça, qu'il y a une subtile dissymétrie entre les trois pôles. Il y a pour et à destination. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque des chercheurs et des politiques mettent en place des dispositifs basistes ou promeuvent des modèles théoriques basistes qui se partent du bottom-up, c'est pas exactement la même chose. C'est pas le bas qui est parti vers le haut. C'est le haut qui a rebondi sur le bas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça soulève la question du fait de savoir si ces approches d'ouverture sont pas simplement des approches de transition ou transitoires. Pour moi, le modèle qui prédomine actuellement dans les pratiques de recherche qu'on observe autour de nous, dans le champ environnement, développement, gestion des territoires, c'est le modèle que j'appellerais tradi plus ouverture. Donc, on a le modèle traditionnel, plus des ateliers participatifs chercheurs population locale, plus des dispositifs de dialogue chercheurs hommes politiques décideurs, plus des dispositifs de concertation et de participation du public. Donc c'est le modèle tradi plus les ouvertures. Là encore, je dois dire que je préfère m'inscrire dans une optique minoritaire par rapport à ça, qui consiste à dire, mais au fond, rajouter des liens, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Pas vraiment, parce qu'au fond, la situation de référence, c'est pas le modèle tradi. Le modèle tradi, c'est un discours sur la situation. La situation de référence, c'est une situation où nous sommes déjà dedans. Les chercheurs sont dans la société civile autant qu'ils sont dans leur recherche, et surtout, ils sont dans l'appareil, dans la technostructure, autant qu'ils sont dans leurs organismes de recherche. On ne peut pas être prof à l'ENGREF ou chercheur à l'INRA et croire qu'on n'est pas dans la technostructure administrative liée aux politiques agricoles et qu'on n'est pas pris soi-même dans les conflits sur lesquels on travaille. C'est pas possible de croire ça. Enfin, c'est possible, mais enfin, non, ça ne devrait pas être possible. En tout cas, c'est de ça que je pars, ça ne devrait pas être possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, au fond, la réalité, il est beaucoup plus viable de considérer que la situation de référence n'est pas le modèle tradi. Raisonner en disant « il y a le modèle traditionnel, il faut l'ouvrir », c'est choisir le modèle tradi, donc le modèle que dit moderne, comme la situation de référence et ouvrir. Mais c'est se tromper de situation référence. Il faut renverser complètement le problème. La situation de référence, c'est l'immanence de la position des chercheurs. Nous sommes à la fois pris dans la société civile et ses fonctionnements. Nous sommes pris dans le système politique et technico-administratif. Nous sommes pris dans les logiques propres de nos institutions académique. Et en fait, les barrières que le modèle tradi nous présente comme naturelles et tellement fortement instituées qu'il faut lutter contre, en fait, ce sont des palissades en planches qui sont simplement là pour nous aider à assumer nos immanences. Donc l'enjeu n'est pas du tout de rajouter du lien sur le modèle tradi, mais au contraire de déconstruire les césures du discours tradi pour comprendre quels sont les véritables liens qui existent déjà. Je prends un exemple. Un chercheur de l'INRA qui bosserait sur la pollution du porc en Bretagne et qui faite par les porcs en Bretagne et qui organise un atelier participatif avec le public, et qui nous dirait « moi, je suis chercheur, je suis indépendant. De l'autre côté, il y a des hommes politiques qui décident, et une société civile. Je vais créer ce dispositif, ça va créer un lien entre moi, le monde de la recherche, et la société civile. » Mais ce chercheur, il est pris dans des liens organisationnels, financiers, de cadrage des recherches, dont la force est infiniment supérieure au dispositif rajouté qui peut mettre en complément de son discours tradi. Donc l'enjeu n'est pas de rajouter des dispositifs au modèle tradi. L'enjeu, c'est au contraire de déconstruire ce modèle et d'expliciter les logiques dans les liens qui existent déjà. Alors, tout l'enjeu, finalement, dans la situation où nous sommes tous pris, des chercheurs de notre champ, c'est de savoir si nous sommes dans une situation surorganisée ou sous-organisée. c'est-à-dire au fond surstructuré ou sous-structuré. En effet, on a un double sentiment de perte de contrôle sur les systèmes. On a l'impression que les territoires échappent, que la pauvreté échappe au traitement, que le développement échappe, que l'environnement échappe. Mais en même temps, on a un sentiment de faible marge de manœuvre d'action. C'est ce double sentiment. Les deux ne sont pas dépendants l'un de l'autre. C'est deux sentiments différents. À d'autres époques de l'histoire, on pouvait avoir ce sentiment de perte de contrôle. Dans le début des années 70, il y avait un sentiment très fort de perte de contrôle, mais il n'y avait pas du tout le sentiment de faible marge de manœuvre. Or, ce double sentiment traduit en fait une surorganisation. C'est parce qu'on est déjà surdéterminé par les engagements déjà pris et les forces organisationnelles déjà là que les marges de manœuvre sont faibles et qu'on est pris dans une dérive. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce sentiment est interprété, que ce soit par les chercheurs ou par les politiques ou par la société civile, au contraire, comme traduisant une sous-organisation. Et donc, comme il est interprété comme une sous-organisation, à partir de l'idée que si on rajoutait un dispositif, on pourrait reprendre le contrôle, à ce moment-là, on se trouve dans une situation qui aggrave le problème. Alors, à quoi est dû ce qui constitue, à mon sens, une erreur de perspective radicale ? C'est dû d'abord au fait que l'organiser, les liens déjà là, sont implicités systématiquement. C'est-à-dire que il y a un énorme travail, partie délibérée, partie non délibérée, par lequel tous les acquis sont considérés comme naturels et par lequel tous les liens organiques de fonctionnement de l'institution de recherche, par exemple, et ses liens de dépendance par rapport au secteur économique et aux politiques publiques, sont occultés par le discours tradi et par le discours propre interne de l'institution académique. Et donc, du coup, effectivement, on institue une perception du sous-organisé, là où la situation de fait dans laquelle nous sommes pris, pas seulement celle que nous analysons, nous sommes pris dans une surorganisation, et donc on la lit comme sous-organisée parce qu'il y a de l'implicitation qui nous fait occulter toute une partie des dimensions de lien. Et puis évidemment, il y a une difficulté d'expliciter ces rapports de fait quand on est pris soi-même dans une situation complexe et tous les champs analytique, au sens où je l'ai pris tout à l'heure, le montre, eh bien, il y a une difficulté spécifique à dire la situation quand, en faisant ça, on s'exprime, on est dans les enjeux de la situation et qu'on a un projet ou une résistance au changement. Donc, l'enjeu analytique, c'est d'expliciter la structure et le fonctionnement de l'organisation concrète, au sens de Crozier, c'est-à-dire des fonctionnements réels qui sont associés au fonctionnement formel qu'on se raconte, nous, pour rendre compte des résultats émergents, la gestion effective et pour réfléchir à de la prescription. Donc je n'irai pas plus loin sur cet aspect-là, mais je voudrais revenir à l'évaluation du coup. Une fois qu'on a reposé le problème comme un problème de surorganisation au lieu de sous-organisation, et donc comme un problème analytique. Quelqu'un qui s'engage dans une démarche analytique, c'est bien parce qu'il est pris dans une surstructure, pas dans une sous-structure. Et donc, pour l'évaluation des politiques publiques, ça va nous apporter un premier point théorique qui est capital et qui prolonge, qui répond à une des questions sur lesquelles achève finalement l'exposé de Durand. C'est que l'institutionnalisation de l'évaluation, qui rejette brutalement, n'est pas un enjeu de moyens, mais un enjeu de fondement. Dit autrement, la question le raisonnement de Durand est de dire instituer l'évaluation, c'est instituer d'emblée une évaluation bloquée. C'est assez vrai sur le plan empirique, c'est-à-dire on constate ça souvent. Mais en fait, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain de dire ça. Il vaut mieux reformuler le problème à partir de cette conceptualisation en termes de surorganisation et de sous-organisation en disant l'enjeu central, c'est celui de l'institutionnalisation de l'évaluation. De même que dans toute analyse, l'institution de la situation analytique est un enjeu central. On ne peut pas penser une analyse sans penser à l'institution du dispositif d'analyse concret pour soi et pour la situation. Et donc, le véritable problème, c'est de dire que seul a un sens une institutionnalisation de la situation évaluative qui permettent une désorganisation, c'est-à-dire qui diminue le degré de surorganisation. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est bien ça que font les dispositifs analytiques. Quand quelqu'un va s'étendre sur un divan, il a supprimé un très grand nombre de situations d'action, de réalité, un très grand nombre d'interactions. Il a créé une situation fortement sous-organisée au sein d'un système surcontraint et organisé. Et c'est précisément cette institution qui désinstitue ou qui sous-organise, qui constitue la force propre d'un dispositif analytique. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut penser utilement la question de l'institution et les dilemmes liés à l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, je vais essayer de vous montrer en quoi cette reconceptualisation va avoir une portée sur les réflexions propres au champ de l'évaluation des politiques publiques en tirant quelques citations de la littérature du champ. Première citation, MacTaggart. 93, je crois. L'évaluation est une activité réflexive. Elle affecte les gens qui y participent et la situation étudiée. Il n'y a pas de garantie, j'ajouterais de garantie a priori ou systématique, que les effets soient démocratiques, constructifs ou efficaces. En évaluant, vous créez une situation politique. Politique, tout autant pour l'évaluateur que pour les parties prenantes. Et quand on crée une situation politique, on ne peut pas dire que telle garantie va garantir toujours que ce soit démocratique, constructif ou efficace. Deuxième citation, Durand, politique c'est policy, c'est pas la peine d'insister, il en a parlé ce matin. Alors, fondamental, cette citation de Durand et Monnier, 92. L'évaluation s'appuie sur le constat, maintenant clairement établi, que toute politique publique est de fait une théorie du changement social. Théorie rarement explicite qui suppose bien sûr d'être validée par les faits. Dit autrement, une politique publique, c'est le passage à l'acte d'une théorie du changement social. Et donc, discuter de la théorie d'action publique ou de la théorie du changement social, c'est interférer directement avec le passage à l'acte. C'est pas interférer indirectement. Si on est dans un cadre de passage à l'acte, intervenir sur les cadres cognitifs, c'est en prise directe. Ça n'est pas une activité à part qui se situe dans un autre monde. Et donc, au fond, on voit bien que le caractère politique de l'évaluation, il est lié au fait que discuter des théories d'action publique, des théories des effets, etc., c'est interagir politiquement avec les situations. Là, on se retrouve bien en prise avec des théories comme celle de Latour, les théories cosmopolitiques, etc. Là, on peut dire que un autre acquis de la littérature sur l'évaluation, c'est que rien que le fait de discuter sur les liens de causalité qui sont en œuvre dans les politiques publiques, c'est déjà quelque chose d'intéressant en soi. Et que c'est un apport de l'évaluation. Et effectivement, ce type d'activité, c'est une activité de type analytique. Pourquoi M. Untel n'est pas bien? Quelles sont les causes qui font qu'il n'est pas bien? Qu'est-ce qui pourrait changer dans la situation pour qu'il soit mieux? Quel lien il y a entre la manière dont il se représente dans la situation, ses comportements et le fait qu'il n'est pas bien? Mais cette question, elle vaut tout autant pour analyser des institutions, évidemment, que pour des situations analytiques au sens plus étroit du terme. Et donc, je pense qu'on peut appliquer fortement cette problématique analytique à l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est une activité interactive et réflexive qui consiste à verbaliser, à expliciter, qui affecte les participants, où théorie, action et situation politique sont très intimement liées, dans des situations où l'échec est présent ou guette, et où il y a un enjeu de réussite et de changement. Et c'est une situation dont la fin est ouverte, c'est-à-dire sur laquelle ni l'analyste ni les protagonistes ne peuvent trouver de talisman qui leur garantisse la sortie de la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe si on réexamine à cette lumière-là les conceptions classiques de l'évaluation? Donc ces conceptions, là encore, je passe très vite là-dessus, on les a vues ce matin et puis tout à l'heure, mais moins typologiquement. C'est la conception managériale, mesurée, pour optimiser l'action, la conception démocratique, mesurée pour permettre de juger, et la conception pluraliste se met autour de la table. Voilà le type d'outils vers lesquels on peut aller si on veut avoir cette approche analytique de l'évaluation. On va poser par exemple la question qui évalue qui, pour qui et sous le contrôle de qui, et qui est à l'initiative. Donc j'ai fait un petit tableau. On a les dirigeants. Le réseau de mise en œuvre, c'est les protagonistes de la politique publique. C'est les gens que vous allez mettre autour de la table si vous voulez faire une gestion patrimoniale, par exemple. Et puis vous avez le public. Alors c'est intéressant de voir que, par exemple, dans la conception démocratique de Vivray, c'est les dirigeants qui sont évalués. Et c'est le public qui est le destinataire principal de l'évaluation. Évidemment, dans l'évaluation managériale, c'est l'activité des opérateurs et la réponse du public qui sont évaluées, et c'est les dirigeants qui sont les destinataires de l'évaluation. Donc vous voyez la logique du tableau, et vous voyez à quel point ces conceptions sont radicalement différentes dans leur cadrage. Sauf que, et c'est l'enseignement principal à mes yeux du tableau, on va s'apercevoir de plusieurs choses. On va s'apercevoir d'abord du fait qu'il y a deux attracteurs dans ce tableau. Il y a la case qui est évaluée, le réseau de mise en œuvre, dans laquelle les trois conceptions se retrouvent. Et puis il y a un autre attracteur, c'est le fait que les commanditaires de l'évaluation tendent à être, ou à l'initiative, tendent à être une coalition entre les dirigeants et le réseau de mise en œuvre, incluant éventuellement la clientèle de la politique, c'est-à-dire les gens qui émargent. Donc, ou du moins les gens qui sont les représentants constitués de ceux qui émargent. Et donc, ça nous montre le tropisme dominant du développement des formes d'évaluation, qui va être d'organiser des évaluations néocorporatistes à l'initiative d'une coalition de dirigeants et d'opérateurs de la mise en œuvre. Sans clarifier vraiment ni qui sont les destinataires, et en instaurant une situation où le débat sur le contrôle est remplacé par un débat sur la rigueur méthodologique de l'évaluation. Et donc, on voit aussi dans ce tableau qu'il existe un point aveugle, un degré zéro ou un point zéro de l'évaluation, c'est le mouvement qui part du public pour demander des comptes aux politiques. Et donc, je pense également que la prise en compte de ce point aveugle, il y a quelques taquets dans la littérature, mais peu nombreux là-dessus, cette prise en compte est capitale si on veut comprendre ce qui se passe dans l'évaluation. Donc, ce tableau, il est un des exemples qui montre que si on fait ce renversement radical vers cette posture analytique, à ce moment-là, eh bien, on peut déboucher vers des redéfinitions et des manières de recadrer le problème qui peuvent nous aider fortement à comprendre ce qui est en train de nous arriver et les modes de problématisation et les modes de pratique d'évaluation dans lesquels nous sommes pris assez confusément et dans lesquels, en fait, nos jeux, pour clarifier, sont en même temps pris dans des dérives à cause de ces points d'attraction. Exemple. Dans un article récent de Gibert sur l'évaluation des politiques publiques, vous pouvez lire cette appréciation très dévalorisante du dispositif actuel d'évaluation officielle en France. Il peut être caractérisé par la volonté de faire de l'évaluation une activité rigoureuse, tout en concédant à la fibre démocratique par la publication des travaux, et en donnant sa place à un pluralisme contrôlé. C'est cette espèce de corporatisme autour de la table où toutes les parties affectées se mettent autour de la table pour discuter dans la composition de l'organe central d'évaluation. Le problème, c'est que Gibert essaye d'analyser ça en présentant un paradoxe qui est celui du pouvoir qui évalue le pouvoir. C'est le paradoxe de Wildavsky dont parlait Durand ce matin, qui consiste à dire pourquoi un pouvoir ferait-il évaluer ses principales politiques au grand jour, prenant le risque que soit étalé au grand jour, c'est lui qui répète, les faux-semblants, les contradictions, les limites et l'inefficacité. Donc voyez bien qu'on est coincé entre l'institutionnalisation de l'évaluation, le fait que toutes les politiques européennes ont leur mécanique d'évaluation, etc., et en fait, et ce paradoxe. Mais ce paradoxe est un paradoxe apparent, et c'est le travail sur ce paradoxe qui est un des points forts d'une problématisation analytique de l'évaluation. En effet, le même paradoxe est à la base de toutes les situations analytiques, qu'elles soient cliniques ou qu'elles soient d'analyse institutionnelle. L'école de Palo Alto, sur l'analyse systémique des interactions interpersonnelles en psychiatrie, par de là, elle consiste à dire si quelqu'un va voir un thérapeute, c'est parce qu'il est porteur d'une demande de non-changement et qu'il est pris dans une crise tellement forte qu'il n'est pas sûr d'arriver à assurer son non-changement. Bon, mais il y a d'autres théorisations selon les registres. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à ce paradoxe. Gibert s'arrête à ce paradoxe, mais non, c'est là, c'est à ce paradoxe-là que les choses commencent en réalité en matière d'évaluation. Et c'est pour ça que la question de la résistance est fondamentale et que le fait de la considérer non pas comme un problème de mise en œuvre ou de méthode, mais comme le problème de fondement devient important. Alors bon, on voit bien la double contrainte, hein, au sens de Batson, de la situation. Le pouvoir n'est pas d'accord pour être évalué par l'autre, et il n'est pas d'accord pour s'évaluer lui-même, certes. Mais dans cette situation, il y a une ligne de fuite. C'est le fait que le pouvoir n'est pas monolithique. Réifier le pouvoir comme étant le pouvoir avec un grand P, c'est ça qui pose ce faux paradoxe. Et donc, l'évaluation, c'est toujours une situation dans laquelle un pouvoir... Ne serait-ce que le pouvoir cognitif d'une équipe de recherche qui a décidé de dire quelque chose qui n'est pas dit et de le montrer dans des termes qui résistent, enfin qui dépassent les résistances, ce pouvoir-là évalue d'autres pouvoirs. Parce que Durand a utilisé le mot « montrer ». Mais montrer, quand on est pris dans une situation, c'est pas juste montrer. Montrer, c'est aussi agir. Et donc, on est dans des situations où un pouvoir évalue des pouvoirs. Et dans toute situation analytique, au sens général auquel je l'ai utilisé, repose sur l'idée d'une pluralité des instances. On peut partir de la topique freudienne, on peut partir des institutions des Lumières avec la séparation des pouvoirs, on peut s'intéresser à la schizoanalyse de Deleuze et Guattari, on peut passer par les dispositifs d'évaluation des politiques publiques du décret de 90. De toute façon, l'évaluation, elle repose sur la dissociation des instances, elle repose sur le fait qu'il existe une pluralité des instances en présence. Et que donc, deux problèmes se posent en même temps, le problème de la tragédie unitaire, comment le pouvoir évolue le pouvoir, et le problème des instances dissociées, et c'est ça qui est au fondement, en réalité, de l'évaluation. Mais alors, du coup, ça change énormément de choses sur les définitions, les phrases. Ça permet d'apporter beaucoup plus de précision conceptuelle. J'ai relevé une phrase dans le transparent de Durand où on disait, en gros, une politique publique, c'est comment on s'organise pour traiter un problème public qu'on a trouvé important et pour rendre des comptes à la collectivité. Ben justement, ça, c'est l'état de la réflexion. Avant qu'on ait pris en compte cet aspect de pluralité des instances et des préoccupations. Et une fois qu'on l'a prise en compte, alors on ne peut plus utiliser le terme « on ». Qui veut essayer de montrer quoi ? À qui ? Pourquoi ? Sur quoi ? Et donc, ça réinstaure une ligne de fuite, une possibilité dynamique d'une situation qui est bloquée par le paradoxe. Si on la prend comme une situation unitaire, et si je vais très très vite et de manière très très dense, si on la prend comme une situation d'action collective, plutôt que comme une situation d'action de changement. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre les fondements théoriques de la gestion patrimoniale d'un côté et ceux sur lesquels on s'appuie, nous, de l'autre. Trois conséquences. La première, c'est le caractère central du caractère institué ou instituant de l'évaluation. Avec un principe d'action, il n'est pas légitime d'institutionnaliser l'évaluation si cela n'est pas nécessaire et efficace pour limiter le degré de contrôle de l'évaluation par l'institution. Je pense que beaucoup de recherches sur agriculture et environnement, si elles réfléchissaient à ce principe ou si quelqu'un s'amusait à les faire réfléchir sur ce principe, pour aller au bout de mon raisonnement, seraient assez intéressamment disséquées par cette manière de poser le problème. Et par ailleurs, il importe d'accorder attention et soutien aux dynamiques instituantes d'évaluation. Là, je prolonge la question qui a été la première question ou intervention après l'exposé de Durand. C'est vrai que les interventions évaluantes, même si elles ne sont pas instituées comme évaluations, sont fondamentales en réalité. Et ça, je pense que c'est très riche de perspectives dans notre cadre. Deuxième point, c'est que la position pluraliste, qui correspond en fait, dans notre univers à nous, aux approches de co-construction. Cette position, elle nous dit, voilà, et on va d'abord construire tous ensemble de manière pluraliste le questionnement, puis après on va déboucher sur une évaluation. Mais c'est un oxymore. Hein. Où est le pluralisme là-dedans? Alors on pourrait montrer les problèmes que ça pose du point de vue pluraliste. Et nous, nous plaidons, c'était l'objet de la conférence de janvier, là, que je vous rendrai disponible, pour le fait de dire, au contraire, non, l'évaluation, elle doit être une contribution dissensuelle pour réouvrir une discussion pluraliste sur les problèmes publics. Pourquoi? C'est la troisième conséquence. Parce que toute évaluation implique une dissymétrie, ne serait-ce qu'en évaluateur et évalué. La co-construction, la co-évaluation, ça pose des problèmes d'auto-référence. Ce qui nous paraît important, c'est qu'il y a deux types de dissymétrie que nous proposons de mettre au centre de l'analyse, d'instaurer au centre de l'évaluation et de l'analyse. C'est d'abord la dissymétrie qui est liée à l'action de changement. Toute action de changement se traduit par une polarisation entre des acteurs qui poussent pour le changement et des acteurs qui résistent au changement. Cette dissymétrie-là, pour nous, est d'un intérêt énorme. Dans le champ de l'agriculture-environnement, ça veut dire que la polarité entre des gens qui poussent pour faire changer des pratiques ou des structures agricoles dans un sens de développement durable, et les résistances des structures et des gens qui résistent pour ces structures, cette polarité-là est fondamentale. Et il vaut mieux réinstaurer l'analyse autour de celle-là qu'autour de la hiérarchie des niveaux organisationnels. Et évidemment, il y a des dissymétries liées à la pluralité des préoccupations. C'est-à-dire que croire qu'en mettant tout le monde autour de la table, on peut fabriquer une méta-préoccupation avec toutes les préoccupations des gens, de notre point de vue, c'est vraiment fermer l'espace d'évaluation. Et donc, il faut assumer le fait qu'une évaluation, eh bien, c'est l'exemple des zones humides le montre de manière flagrante, on évalue l'ensemble des actions publiques au regard d'une promesse et d'une action publique, celle sur les zones humides. Évidemment, on ne peut pas prétendre représenter les intérêts de tout le monde. Et il y a place pour d'autres évaluations partielles, d'autres points de vue. Et c'est ça le pluralisme. Le pluralisme, c'est un pluralisme des évaluations parce qu'il y a un pluralisme des questions. Ce n'est pas le fait de se mettre tous d'accord dans un pluralisme fugace pour poser tous ensemble le même panier de questions. Alors, je termine, et c'est ce qui va ouvrir la discussion. C'est que l'évaluateur, le chercheur qui se mêle d'évaluation, et j'irai un cran plus loin, le chercheur qui montre des choses qui évaluent, hein, montrer ce qui se passe sur un terroir dans tel terrain en Afrique, eh bien c'est de fait montrer des impacts des politiques publiques. Donc en fait, on est très souvent dans des situations où on fait de l'évaluation sans le dire, ou sans le vouloir. Alors, l'évaluateur est impliqué, il est pris dedans. C'est ça l'immanence dont je parlais, et qui fait que la situation appelle une analyse au sens fort du terme. L'évaluation est une activité interprétative, donc ce terme-là aussi, il est à reprendre dans ce cadre analytique. Et la posture de l'évaluateur est cruciale. On ne peut pas nous dire qu'un chercheur évalue l'activité environnementale sur les zones humides dans un terrain donné sans réfléchir à la question de sa posture à lui, personnelle ou organisationnelle, par rapport à ce problème public. Et c'est vrai pour n'importe quel autre problème public. Ce qui conduit à demander de différencier clairement des postures de mise en cause et des postures d'accompagnement. À longueur d'année, je lis des travaux dans lesquels des chercheurs profondément engagés dans l'activité de développement agricole écrivent des évaluations des politiques environnementales qui sont appuyées sur des postures de mise en cause de la politique environnementale, c'est-à-dire de dissociation du problème, d'hostilité envers les opérateurs et les publics aidés, par exemple les ONG environnementales. Et au contraire, de soutien militant aux cibles qui sont contraintes par les politiques environnementales et aux opposants et aux concurrents des opérateurs environnementaux. Évidemment, mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas une place légitime pour de telles évaluations. Évaluer, ça veut dire mettre en discussion des éléments de jugement négatifs et des éléments de jugement positifs. En revanche, ce qui est aujourd'hui courant, c'est soit l'ambiguïté, soit le fait de nous présenter comme neutres des évaluations qui sont des évaluations mises en cause des politiques environnementales. Non, l'évaluation, c'est une discussion sérieuse entre des travaux sérieux appuyés sur des postures de mise en cause et des travaux sérieux appuyés sur des postures d'accompagnement. Pour donner qu'un seul exemple, le système de contrôle de gestion publique, eh bien, il organise une activité d'évaluation accompagnement, c'est les services financiers d'un organisme, et une activité d'évaluation mise en cause, c'est le contrôleur financier. Et le jeu de ces deux activités, c'est ça qui donne au système une véritable capacité d'évaluation. Donc, dans notre champ à nous, il faut arrêter de nous dire qu'il y a des chercheurs neutres qui évaluent des politiques environnementales. C'est pas vrai. Ou du moins, la question n'est pas « c'est pas vrai », c'est en se disant ça, on a des effets pragmatiques qui me paraissent à la fois inassumés et inacceptables. Deuxièmement, autre conséquence, il faut simplement voir que si on veut clarifier ces postures, ça n'est pas une clarification très simple du genre « je fais ma recherche dans le cadre d'un contrat payé par le ministère de l'Environnement et qui a pour objectif la protection de l'environnement, donc je suis en accompagnement ». Non, il faut analyser vraiment les différentes implications qui sont souvent contradictoires entre elles. Ça aussi, c'est une dimension analytique, inséparabilité des quatre dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, du fait que nous sommes pris dans ces situations, que nous n'évaluons pas des situations, mais nous sommes, en tant que chercheurs pris dans ces situations, dans une situation évaluative qui est en même temps une situation analytique au sens fort du terme, en fait, ça ouvre un espace de réflexion, ça pose un fondement théorique pour aller plus loin sur un certain nombre de points. Et je pense que mon but, à travers notamment la ligne de recherche que je propose d'ouvrir là avec RES, c'est précisément d'enclencher et de poursuivre ce processus analytique, puisque dès qu'on en parle, en fait, on est dedans. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, j'étais sans doute trop plein de mon sujet.
Bon, on va dire, on a quand même...